Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.
La chronique m'aide à survivre à tout. C'est un fil à la patte, mince et résistant. Sa force doit naître, j'imagine, de sa limite. Elle m'aide à vivre comme si rien n'avait eu lieu. En me ramenant à l'éphémère, à la miniature, elle m'autorise l'insouciance née de l'habitude et, pourquoi pas, une certaine immortalité, l'appréciable immortalité d'un courant d'air. Souffle Philippe Lançon en préface de ses Chroniques de l'homme d'avant, paru en novembre aux éditions Les Échappées, qui rassemble le meilleur de ce qu'il a publié dans Charlie Hebdo depuis 2004 jusqu'à l'attentat du 7 janvier 2015. Pour celles et ceux qui l'ignorent, mon invité d'aujourd'hui était là, ce matin de terreur, puis de silence et de sang, dans la salle de rédaction, touché à la mâchoire. Ce qu'il raconta dans Le Lambeau, en 2018, au fil d'une introspection bouleversante qui convoquait tous les événements encadrant la tragédie, en laissant libre cours à ses associations d'idées, tout en observant à la loupe son très long processus de reconstruction physiologique, psychologique, amicale et sociale, après plus d'une vingtaine d'opérations chirurgicales. Et tandis que ce récit, d'une force littéraire extraordinaire, vendu à plus de 300 000 exemplaires, vient de sortir en poche, son auteur s'attarde ici sur cet étrange travail effectué chaque semaine dans le journal Bête et Méchant, dont il demeure l'une des principales signatures. Le chroniqueur, écrit-il, n'est ni enquêteur, ni reporter, ni éditorialiste. C'est une petite voile dans la tempête sous un ciel de plomb. L'actualité, même s'il la prend au sérieux, n'est qu'un prétexte. Il est payé pour écrire ce qu'il est, ce qu'il veut être, ce qu'il croit être. Sa fonction est baroque, intime et masquée, pleine de plis, et nouée à cette figure essentielle à l'acte d'écrire, la digression. Parmi les 500 chroniques rédigées pendant 11 ans, la soixantaine de textes retenus démontrent sa maîtrise du pas de côté. Pour évoquer pêle-mêle ses années de formation à Libération, le Marquis de Sade, de vieux costumes vendus à Barbès par un économiste de gauche, le rêve d'un ciel sans avion dans ce monde conduit, je cite, par des cow-boys industriels, ou encore un dîner tsunami qui pastiche habilement Houellebecq. Au cours de cette conversation en deux épisodes d'une heure, dont voici la première partie, Philippe Lançon revient sur les enseignements de trois de ses maîtres dans l'exercice de la chronique. Bernard Franck, François Mauriac et François Cavanna. Ainsi que sur ses premiers écrits du temps où il était donneur de leçons, austère et pète sec, avoue-t-il en riant. L'émission sera conclue par la rediffusion d'une lecture du Lambeau, commentée par le dessinateur Luz. Bonjour, c'est Richard Guettet, bienvenue dans la Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova que vous retrouvez chaque dimanche de 12h à 13h. Bonjour Philippe Lançon.
Bonjour.
Est-ce que je peux vous demander, pour commencer cette émission, de nous lire très lentement deux lignes d'André Gide que vous reproduisez à l'intérieur de vos chroniques de l'homme d'avant?
Oui, si vous me passez le livre. Longue promenade solitaire à travers les champs de manioc à la poursuite d'extraordinaires papillons.
D'où provient cette phrase?
Elle provient de... à mon avis, du voyage au Congo, qui lui a permis, comme il avait les yeux relativement ouverts, Gide, de voir l'état de la colonisation en Afrique dans les années 20. Donc ça a été un de ses livres qui a fait scandale parmi la bonne société française et en particulier colonialiste. Voilà, c'est un de ces moments où il a fait son travail d'écrivain et de journaliste finalement.
Est-ce que ça ne serait pas ça aussi, un peu, écrire une chronique, une promenade solitaire à la recherche d'extraordinaires papillons?
Oui, parce que effectivement, alors d'abord, maintenant, dans la chronique où je l'ai citée, où vous l'avez repéré, c'est la beauté de la phrase qui m'a frappé, et effectivement la manière dont, quand on écrit une chronique, à mon avis, hein, ce que je dis là ne vaut que pour moi, comme lecteur et comme auteur, c'est une manière toujours de musarder, c'est-à-dire d'emprunter un chemin dont on va plus ou moins tenir la ligne, de la même façon, donc longue promenade dans les champs de manioc, et puis à la poursuite d'extraordinaires papillons, on ne sait jamais si on va les trouver, on ne sait jamais lesquels on va trouver, et il va falloir en quelque sorte, quand on écrit, les intégrer à la promenade. Donc être aussi capable de détourner, en tout cas momentanément, sa promenade du but qu'on s'était fixé, pour pouvoir suivre un papillon sur lequel on n'imaginait pas tomber.
Au moment où vous acceptez le principe de cette chronique hebdomadaire dans Charlie Hebdo, quelle était la consigne, le cadre initial, à part le nombre de caractères, j'entends ?
Très franchement, le cadre, la consigne que m'a donnée à l'époque Philippe Val, qui dirigeait Charlie Hebdo, c'est « essaye, imagine et transgresse ». C'est-à-dire, trouve tes propres formes à l'intérieur de l'espace qui t'est donné, en te fondant ou pas sur l'actualité, il y avait un champ ouvert tout à fait extraordinaire. Ce qui était aussi assez inquiétant, parce que je me suis vraiment demandé, mais qu'est-ce que je vais faire ? Dans la mesure où, moi j'avais eu l'habitude d'écrire des chroniques, hein, j'en avais écrit beaucoup à Libération, mais elles étaient concentrées sur ce que je voyais à la télévision. Donc là, j'avais un programme que j'ai tenu pendant quand même 2 ans et demi, 3 ans, hein, quotidiennement, et qui consistait à regarder la télé plusieurs heures par jour, puis à décider de l'émission que j'avais vue qui me semblait la plus intéressante à chroniquer, c'est-à-dire à prélever quelque chose qui me donnait à la fois matière à voir et à réfléchir. Là, c'était très différent. Je partais précisément dans un champ de manioc avec d'extraordinaires papillons, et je ne savais pas lesquels je pourrais trouver. Et donc, j'ai essayé tout un tas de choses. Et comme je pense vous l'avez peut-être vu dans ce livre de chronique, en fait j'ai mis chronique parce que c'était le terme générique, mais très souvent elles ont dérivé vers des fictions, des micro-fictions, et vers des sortes de micro-récits, parfois inspirés d'une actualité directe, mais très rarement en vérité, mais plus généralement qui sont plutôt, on va dire, qui flottent dans l'air du temps. Ça, c'est ce qui m'a beaucoup frappé à la relecture de ces chroniques.
Trois écrivains vous ont, dès l'adolescence, fait aimer et assimiler le genre de la chronique, dites-vous. Il y a Cavana, François Mauriac et Bernard Franck. Vous les avez lus et relus pour respirer et pour penser. Est-ce que vous pourriez, pour chacun, nous résumer ce qui faisait leur patte dans cet exercice si particulier et vous rappeler d'un ou deux textes, peut-être, que votre mémoire retient comme du travail d'orfèvre ? Est-ce qu'on peut commencer par Cavana, par sa finesse martiale, très belle expression que vous
utilisez. Alors Cavana, donc c'était un, pour ceux qui ne l'ont pas connu et vu, c'était un grand bonhomme à moustache, très très élégant. C'était un dandy populaire, donc extrêmement raffiné en vérité, et un super artisan de la plume, donc un artiste qui ne se serait jamais permis le moindre laisser-aller dans l'écriture. C'était le sens presque ouvrier qu'il avait de la dignité de son travail et donc de son style. Et le style, en l'occurrence, c'était bien l'homme. Et Cavana, moi j'ai lu adolescent Les Ritals, Les Ruskov, ces livres où il raconte finalement son enfance et le moment où il est du STO pendant la guerre. Et donc quelque chose qui est quand même relativement inspiré par Céline, qui était un écrivain que j'aimais énormément, surtout Le Voyage au bout de la nuit et Mort à crédit. Et donc voilà, ça m'avait quand même marqué. Et puis moi, quand j'étais adolescent, en fait, je lisais assez peu Charlie, occasionnellement chez des amis, mais je l'avais pas chez moi. Enfin, vous voyez. Mais j'étais tombé quand même sur des chroniques de Cavana. Mais ça restait quand même pour moi avant tout l'auteur des Ritals et des Ruskov. Et à un moment donné, disons, je me suis retrouvé dans ce journal où j'ai appris à le connaître, puisque je le voyais évidemment chaque semaine à la conférence de rédaction. Et donc, évidemment, à le lire et à faire cette chose un peu magique et toujours inquiétante et parfois décevante qui consiste à confronter l'homme et ce qu'il écrit. Mais Cavana était en conférence quelqu'un qui parlait peu. Il y avait une voix assez haut, un peu haut perché, très, très délicate. et qui ne la ramenait pas, en fait, vous voyez, qui était très affirmé, puisque c'était quand même le fondateur. Mmh. Hein. Donc, et puis qui, c'était dans cette équipe le véritable écrivain.
Véritable, c'était la vie vue par un petit garçon. Le petit garçon que j'étais alors. Je me suis remis dans l'état où j'étais, dans l'état d'âme, l'état d'esprit où j'étais quand j'avais l'âge d'Héritage. Et effectivement, à ce moment-là, on voit tout avec des yeux éblouis. On découvre le monde est tout neuf, il est stable, il est plein d'espoir, l'avenir est devant soi.
Et quand on atteint un certain âge, on devient nécessairement pessimiste, on dirait.
Oh, je ne suis pas devenu, on atteint un certain âge, je l'ai été très vite. Je crois qu'à 15 ans, c'était fait. D'ailleurs, dans les Ruskov, on le sent, et la suite. Oui, j'avais viré ma cutie à ce moment-là. Et le monde n'était plus un beau gâteau à la crème qui m'attendait. C'était ce qu'il est, quoi.
Ça, c'était l'homme. Et alors, l'écriture, eh ben, c'est une écriture qui est comme... oui, quand même, dans la lignée de Céline, une écriture... qui se veut, qui est populaire, parce qu'il vient de là, mais, et non pas mais, parce que ça serait une opposition, est très très raffiné, très, vous voyez, très, très ciselé, on va dire. Et ce qui la caractérise, et qui caractérise aussi dans un autre genre les deux autres, en fait, c'est une écriture foncièrement ironique. Le chroniqueur, dans ces cas-là, c'est toujours quelqu'un qui donne à voir sa personnalité, mais sous le jour qu'il entend donner. Voyez, c'est-à-dire, c'est pour ça que, de ce point de vue-là, le chroniqueur est toujours plus ou moins un dandy. Pas au mauvais sens du mot, mais au sens où il veut donner aux gens le maximum et ce qu'il considère comme le meilleur de ce qu'il peut donner, lui confronté à l'air du temps, à la fois à ce qu'il vit et à ce qui se vit autour de lui, dans l'actualité, dans le monde. Mais non, pas pour aller jusqu'à la familiarité. Et ça, c'est très... donc, l'écriture est très... Elle est du bon chroniqueur, pour moi, elle est sous tension, parce que, d'une, elle veut donner beaucoup, mais elle ne veut pas tout donner. Il y a toujours un moment où le chroniqueur suggère à son lecteur, on n'a pas gardé les vaches ensemble.
Everybody always picking on me.
That's him on his knees. I know that's him. Getting 7,11 down in the boys' gym. Charlie Brown, Charlie Brown. He's a clown. That Charlie Brown. He's gonna get caught. Just you wait and see.
Why is everybody always picking on me?
Who's always writing on the wall?
Everybody always picking on me. Everybody always picking on me.
Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.
Charlie Brown, ce hit Rhythm and Blues de 1959, composé en quelques minutes, paraît-il, par le quatuor américain des Coasters, portrait d'un garnement qui ne comprend pas, malgré toutes ses bêtises, pourquoi tout le monde en a toujours après lui. Avec un nom pareil, on pourrait croire qu'il s'agit d'un clin d'œil au jeune copain blondinet de Snoopy dans Peanuts, mais non, clament les musiciens, au contraire des fondateurs de Charlie Hebdo, qui publiaient, au moment de choisir le nom de leur journal, les strips enfantins signés Charles Schulz. Mon invité d'aujourd'hui est l'un des piliers de Charlie, où il écrit depuis 2004. Je suis toujours en compagnie de Philippe Lançon. Tiens, à propos de Charlie, tant que j'y suis, les éditions Gallimard ont publié le 16 janvier le dernier texte sur lequel Cavana a travaillé de son vivant, intitulé « Crève du con ». C'est un recueil de souvenirs qui évoque aussi bien Charlie que ses années de STO. Est-ce que vous l'avez lu, par hasard, Philippe Lançon ?
Oui, je l'ai lu. Oui, c'est très très bien. Je pensais qu'il s'agissait en partie des dernières chroniques qu'il avait écrites quand il avait la maladie de Parkinson, dans Charlie, qui était formidable, de plus en plus courte, puisqu'il avait de plus en plus de mal à écrire. Et il mettait ça en scène, justement, dans la manière d'écrire. Donc, c'est-à-dire, une fois de plus, il donnait au maximum ce qu'il était en train de vivre. Et en même temps, tout ça était tenu et donc mis à distance par l'écriture. Dans l'écriture, il y a toujours une mise à distance par le style. C'est très important. Et ces chroniques-là, et en fait, ces textes sont en fait des inédits. C'est le dernier livre qu'il a voulu penser, et qui est effectivement une descente sarcastique et très digne vers la mort. Voilà. C'est finalement une forme de sommet de ce que a pu donner de mieux l'esprit de Charlie.
C'est à 7 ans que j'étais malheureux. C'est à 7 ans, à 8 ans que j'étais malheureux. À 12, 13 et 14 ans, je ne l'étais déjà plus. J'avais repris le dessus. Il y avait des vacances. Et les vacances, chacune avait son style. Et les vacances de Noël et du jour de l'an, qui étaient très courtes, ça ne dépassait jamais 8 jours. Mais c'était une accumulation de bonheur, enfin de cadeaux. On ne nous donnait jamais rien pendant l'année, c'était pas dans les principes de nos familles. Mais au moment du jour de l'an et de Noël, tout nous était donné à la fois. Comme nous avions beaucoup de parents, beaucoup d'oncles, et que nous étions nombreux, et que chacun de nous recevait ses jouets, alors c'était en 8 jours une sorte d'accumulation de jouets, de livres surtout, qui comptaient surtout pour moi.
Passons maintenant à François Mauriac. La seconde influence revendiquée de votre recueil de chroniques, Mauriac, que nous venons d'entendre à bout de voix dans une interview de 1965, c'est-à-dire 13 ans après avoir reçu le prix Nobel. Mauriac, l'auteur du Sagouin ou de Thérèse Desquéroux, qu'est-ce qu'il représente pour vous, Philippe Lançon ? Vous dites que Mauriac, dans son bloc-notes, montre que la chronique peut être un art, qu'elle n'a rien à envier aux autres formes littéraires, qu'elle est peut-être, par son rythme, sa vitesse, au cœur même de l'acte d'écrire. Pourquoi il était si fort dans ce registre, le père François ?
Lui aussi, c'était un escrimeur. Donc il était extrêmement subtil, assez pervers, et très très drôle. Enfin, il avait beaucoup beaucoup d'ironie, et comme on disait de Mauriac, il avait une patte.
Pervers ?
Oui, pervers au sens où il observe les situations et d'une certaine façon, il peut s'indigner, mais il jouit du mal qu'elle répande.
Vous avez un exemple ?
Là, dans l'immédiat, non, mais si je pense à la première chronique, donc le bloc-notes, je vais vous répondre. Il avait donc presque 70 ans quand il a commencé le bloc-notes, donc c'est un cas tout à fait exceptionnel. C'est un écrivain qui a entièrement renouvelé son genre. C'était un romancier, François Mauriac, et un mémorialiste. Et là, il renouvelle son genre et réinvente par le même une forme de journalisme à travers ce bloc-notes qu'il publie d'abord, donc, si je me souviens bien, en 52 dans l'Express, toutes les semaines. Donc l'Express, à ce moment-là, c'est un très grand journal. Et il est la queue du pan, il est la dernière page. L'Express était très grand, pas comme aujourd'hui, et il y avait une dernière page qui était entièrement le bloc-notes. Et donc ensuite, il a continué jusqu'en 61, et puis comme il était un peu trop gaulliste, il y avait des tensions de plus en plus fortes avec l'Express, qui était très anti-gaulliste à ce moment-là. Il est parti, il a transporté son bloc-notes au Figaro littéraire. Jusqu'à sa mort, il a écrit, quelques semaines, voire quelques jours avant sa mort, il y a encore le dernier bloc-notes, voilà. Si vous voulez, le premier bloc-notes, il observe le désastre des parlementaires sous la 4e République, à partir d'un concours d'incompétence, de lâcheté, de tout ce qu'on veut. Et je me souviens toujours, ça commençait par le titre qu'il avait choisi et qui était le début du papier, c'était « Contemplez mon âme ». Et en fait, c'est un vers de Baudelaire, « Contemplez mon âme, ils sont vraiment affreux, et ce sont les aveugles ». C'est le poème qui s'appelle « Les aveugles », le poème où Baudelaire décrit de manière sublime et extrêmement sarcastique des aveugles qu'il voit. Et donc les aveugles, en l'occurrence, ce sont les parlementaires qui sont en train d'envoyer la France dans le mur avec la guerre d'Indochine et tout un tas de choses. Dès le départ, il observe quelque chose et il faut dire qu'il avait il a eu pendant au moins 10 ans une extraordinaire pertinence politique. Hein? Ça, c'est quand même très important dans une époque qui était très violente, plus que la nôtre encore aujourd'hui. Et dans ces époques violentes politiquement, on ne peut pas dire que les gens, et ni les journalistes, ni les écrivains, ni personne d'ailleurs, soient étouffés par la lucidité. Lui, il est resté quand même assez lucide. Mais il y a toujours les fameux papillons, de chronique en chronique, qui lui permettent de parler au passage d'une lecture qu'il a eue, mais en même temps, qui renvoie à l'événement. Et non seulement qu'il met en perspective, mais qu'il lui donne une charge que sinon il n'aurait plus. C'est-à-dire, pourquoi on peut relire le bloc-notes ? Précisément parce qu'il y a les papillons dans les champs de manioc. Vous voyez ?
Les digressions constructives.
Les digressions constructives. De toute façon, la digression, pour moi, c'est l'essence de la littérature, c'est clair. Les livres, romans et autres qui vont du point A au point B, sans passer par détours. Je peux avoir envie de lire un bon polar ou des choses, mais vous voyez, c'est pas non plus fondamental.
Nova Book Box. Nova te mince la tête avec des mots très doux.
Will you ever see me like a possible lover again? I am fed up to be your twin brother, you're not my sister. And every time I think of that, I wanna say to you, I wanna talk to you. When I look into your eyes, I see a yellow butterfly. When I look into your eyes, I see a yellow butterfly flying high in the beautiful summer sky. Every time I look in
Butterfly, Pop aérienne et Papillon jaune avec les Normands de Tahiti 80. Je suis toujours à la recherche de ces extraordinaires papillons, selon la formule d'André Gide, de ces digressions essentielles qui rythment la vie du chroniqueur, sujet de ma conversation du jour en compagnie de l'écrivain et journaliste Philippe Lançon, équipé de son recueil « Chronique de l'homme d'avant » paru il y a quelques semaines aux éditions Les Échappées, qui rassemble le meilleur de ses chroniques publiées entre 2004 et 2015 dans Charlie Hebdo. Philippe, votre troisième modèle dans l'exercice si spécifique de la chronique, c'est Bernard Franck, cet écrivain et critique littéraire un peu légendaire des années 50 à 90.
Oui, remarque, il y a Julien Gracq qui disait qu'en France, dès que quelqu'un écrit un livre, un premier livre, il pensait qu'il avait des droits pour en écrire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et qu'il ne pouvait pas s'arrêter. Mais je trouve ça pas plus mal d'écrire tout le temps.
Oui, enfin, t'écris pour le monde, de toute façon. C'est comme si tu remettais un chapitre à ton éditeur toutes les semaines. Ça te prend du temps de faire cette chronique du monde. Ça te prend combien de temps par semaine?
Eh bien, je m'y mets le samedi après-midi. Je dors dessus, un peu à la méthode à la Maigret. Et puis le dimanche, c'est plutôt pour se débarrasser des miasmes de la semaine. Et le dimanche, alors, je me laisse aller en me levant à 7h jusqu'à...
Bernard Franck, début des années 80, je crois, il a sorti un livre qui s'appelait « Solde », ce qui est le titre d'un poème de Rimbaud. Donc, dans lequel, c'est une solde. Ses livres sont des prolongements de... Il en a écrit très peu, d'abord, parce que, comme lui disait Sartre, lui disait, de toute façon, vous écrivez parce que vous ne voulez pas travailler. Et donc, les livres sont des prolongements, sont des chroniques infinies, quoi, qui durent 200, 300, 400 pages. Hein. Et donc, alors lui, c'est vraiment un maître de l'art de la digression. Et de... Mauriac l'appelait le bavard inspiré. Et donc, il part dans ses... Voilà, à la fois dans ses lectures. Il est assez narcissique, donc il parle beaucoup de lui, de ses souvenirs, mais toujours avec beaucoup d'ironie et d'autodérision. Hein. Et donc, en fait, j'ai lu Solde, un peu par hasard. J'étais quelque part entre le lycée et l'université, enfin, je ne sais plus trop. Et assez vite, je lui ai écrit. J'ai vu qu'à ce moment-là, il était au Matin de Paris, qui est un journal qui n'existe plus, comme tant d'autres. Et il tenait une chronique, c'était une page. Voilà, c'était une sorte d'agenda dans lequel il faisait, il parlait d'un peu tout. Et donc, je lui ai écrit une lettre de 7 pages, comme on peut faire... quand on a cet âge-là, manuscrite, hein, y a pas d'ordinateur, pas de tout ça. Et il m'a répondu, cette page mérite bien une déception. Et suivait un numéro de téléphone, c'est tout. Donc j'ai appelé, pour nos jeunes auditeurs, il n'y avait pas de portable, il n'y avait rien de tout ça, donc j'ai appelé du téléphone de mes parents, qui étaient dans l'entrée. Et puis, on a pris rendez-vous et je suis allé le voir chez lui. Il vivait dans un passage dans le 13e arrondissement avec sa femme et un chat. Et donc, il était encore plus timide que moi quand je suis arrivé. Et c'était très important pour lui que des jeunes aillent le voir parce que ça correspondait à une certaine idée de la littérature où il y avait une transmission. Vous voyez ? Lui-même avait été, évidemment, voir Sartre et donc avait été adoubé par Sartre. Il avait écrit des livres assez beaux, hein, la panoplie littéraire sur Drieu-La Rochelle... Et puis, il a écrit un roman qui est raté, mais qui est quand même très brillant, qui s'appelait Les Rats. Enfin, il a fait beaucoup de choses qui l'avaient fait connaître. Un article très fameux dans les années 50 qui s'appelait Hussards et Grognards, qui parlait de ces écrivains de droite qui commençaient à émerger ou à réémerger. Grognards, c'était les plus anciens, qui n'avaient pas été blanc-bleu pendant la Seconde Guerre mondiale. Hein, Paul Morand et tout ça. Et puis des hussards, c'est-à-dire une jeune garde qui arrivait avec Roger Nimier, des gens comme ça, qui justement cherchaient aussi une filiation. En littérature, c'était très important quand même. Je dis c'était parce que je ne sais pas si ça l'est encore, mais finalement je pense que ça l'est. La preuve, moi, j'ai des filiations, plus ou moins fantômes. Hein, et je pense que voilà, quand on écrit, avant de s'adresser aux vivants, on s'adresse à des morts, c'est-à-dire à des morts, des gens qui ont écrit des textes qu'on a aimés. Et en fait, c'est probablement, plus ou moins clairement, mais c'est à eux qu'on pense. C'est eux, nos premiers lecteurs, même s'ils nous liront peut-être jamais, quoi.
Quand vous arrivez chez lui, avec son chat, vous vouliez déjà être écrivain et journaliste, à cet âge-là? Je crois que vous avez 19 ans, pas encore 20
non.
ans.
Enfin, le problème, c'est que j'écrivais, quoi.
Le problème, c'est que vous écrivez.
Ben oui, c'est-à-dire le problème, parce que j'écrivais, mais je me disais pas, je vais être écrivain. Ça, je le pensais pas. J'ai fait sagement des études de droit qui m'ont sagement emmerdé. Et puis, j'ai arrêté quand je suis rentré en école de journalisme, et il faut bien le dire, un peu par hasard au départ. Mais j'ai pris goût dès l'enquête. On avait une enquête, je suis rentré au centre de formation des journalistes, et on avait une enquête. Moi, j'avais tiré le reportage. Et c'était vraiment l'épreuve, maintenant je ne sais pas, mais à l'époque, fondamentale. Il y avait des épreuves de connaissances, j'ai eu des notes catastrophiques en histoire, mais le reportage, on tirait littéralement un papier dans un chapeau, et c'était, moi, c'était tableaux à vendre.
Ok.
Mmh. Vous voyez, c'était large hein, comme sujet.
Okay.
Et pour un type qui ne connaissait rien, enfin, j'aimais la peinture, mais tableaux à vendre, c'est un autre problème. Et donc, j'avais évidemment, on tirait le sujet à 8h le matin, et il fallait rendre un article à 19 ou 20h le soir. Voilà. Bernard Franck, pour revenir à ça, il m'a donné goût. On a parlé de livres, hein, on a parlé de Gide d'ailleurs, justement, on a parlé de Mauriac, on a parlé de choses. Voilà, j'étais encore très. Finalement, je m'aperçois, j'avais des références. C'est pas des références, j'avais des amours littéraires très classiques. Mmh. Mais vous voyez, on est dans les années 80, c'est des. Voilà,
82, 83, 83. Ouais.
C'est vrai que j'étais pas encore tellement sur les auteurs américains qui vont marquer et qui vont évidemment marquer. Les gens qui m'ont fait travailler dans les journaux où j'ai été, quoi.
Bernard Franck vous dit à l'époque d'écrire chaque jour. Pourquoi il vous dit ça? Parce que l'écriture, c'est comme un muscle qu'il faut entretenir.
Ouais, ouais. Même quand Cavanna le dit dans le premier des textes de Crève du Con, il dit ça s'appelle la panne.
La panne?
Ouais. Et il dit c'est une catastrophe, je suis en panne. Et ne plus écrire, même pas y penser. Et donc, l'écrivain qui n'a rien à dire, et ça arrive à tous les écrivains, en fait, ça ne veut rien dire qu'il n'a rien à dire. C'est-à-dire, il faut y aller.
Oui, en fait, il est en panne parce qu'il ne s'est pas assez entraîné. Il n'a pas fait ses gammes comme un pianiste.
Ouais, et puis, il faut y aller. C'est-à-dire, quand on écrit, c'est en écrivant qu'on trouve aussi largement ce qu'on veut dire. Évidemment, on peut avoir un canevas si on écrit un roman. Chaque jour, on s'y met. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a il y a véritablement un exercice, comme moi je dis toujours, comme dans la course à pied. Je pratique pas mal la course à pied. La course à pied, maintenant, moi, je peux quasiment écrire des textes en courant parce que je suis suffisamment entraîné pour ne pas souffrir. Vous voyez ? Et donc, ma pensée dérive énormément quand je cours. C'est pour ça, d'ailleurs, que je cours seul, essentiellement. Parfois avec un ami, mais essentiellement seul.
Et sans musique ?
Sans musique, sans rien sur la. Non, surtout pas. En fait, je pense, et c'est intéressant parce que où que j'aille, ça peut être dans la nature ou dans un parc à Paris ou n'importe où, dans une ville que je ne connais pas, ce que je vois et auquel je suis réceptif, puisque je n'ai rien sur les oreilles, rentre dans ce que je suis en train de penser, c'est un bien grand mot, mais les dérives mentales dans lesquelles je suis, les histoires que je me raconte. Et ce que je vois, une silhouette que je croise, un paysage, un bout de parc, une scène, rentre là-dedans. Donc il y a. Et l'écriture, à mon avis, c'est en grande partie la même chose. C'est-à-dire, d'une part, il faut s'y mettre et il faut être entraîné. Et d'autre part, il faut rester toujours, même si on a un parcours, ouvert à ce qu'on va trouver sur le chemin.
À l'époque, Bernard Franck vous trouve trop moraliste. Alors je me demande, qu'est-ce que ça veut dire être moraliste quand on a 19 ans en 1982? Est-ce que vous étiez donneur de leçons, austère, pète-sec?
Donneur de leçons, austère et pète-sec, les trois. Enfin, et donc, on peut en rajouter sans doute, prétentieux. J'étais très prétentieux, voilà. Et en même temps, je doutais énormément de moi, mais ça n'a pas du tout, ça n'est pas du tout une contradiction avec le fait d'être prétentieux. Donc voilà. Et là, il me disait ça parce que je lui disais à quel point m'exaspérait le journal de Gide. Que je trouvais poseur. Ces papillons dans le champ de manioc, au moment où il y a les propriétaires qui exploitent les Africains dans des conditions épouvantables, parce qu'il décrit aussi. Il y a un côté toujours chez Gide. Poseur, Roland Barthes avait écrit un texte qui s'appelait Le grand écrivain en vacances, où il dit, et qui commençait en disant Gide lisait Bossuet en descendant le Congo. Et ça m'avait marqué parce que c'est ce côté, vous voyez, le grand écrivain qui a le grand classique dans une main le paysage sous les yeux, et puis qui dans l'autre, quand il s'égide, en plus caresse un petit garçon, quoi. Donc on peut l'imaginer comme ça. Et en fait, voilà, donc cette, j'avais 19 ans, ce côté poseur, artificiel, m'exaspérait, vous voyez.
Est-ce que c'est aussi l'époque où vous cherchez, ce qui n'est pas commun à cet âge, à imiter le style de Voltaire? Le résultat était ridicule et prétentieux, avez-vous raconté à Vanity Fair. J'écrivais des tas de lettres comme ça à ma petite amie de l'époque, que ça exaspérait.
Ah oui, ça l'exaspérait. Ça, c'était un peu plus tard. C'était plus tard. Malheureusement, c'était plus tard. Et donc, j'ai mis du temps. J'ai imité Céline, je pense, dans des premiers textes, ça c'est sûr. Et puis, oui, à un moment donné, j'ai eu une période où j'ai beaucoup lu... les mémorialistes et épistoliers du XVIIIe siècle. Et comme toujours dans ces cas-là, l'intoxication peut finir par guetter. Hein. Donc ça ne m'étonnerait pas de trouver des universitaires qui ont consacré leur vie au XVIIIe siècle et qui se mettent à écrire de plus en plus à la manière de Madame du Deffand ou de Voltaire ou de Rousseau, vous voyez.
Et vous imitez ces gens-là en pleine explosion de la New Wave, quoi.
Oui, oui, mais ça ne m'empêchait pas d'écouter... alors là, on est au début des années 90. Non, c'est vrai que ce n'est pas une époque où j'écoute beaucoup de rock. Mmh. J'en ai écouté avant. Beaucoup, moi, voilà, j'ai eu 14-15 ans au moment du punk. Et je suis allé en Angleterre à ce moment-là aussi. Donc là, le punk, je ne suis pas passé à côté. Hein, bon. Tous mes copains en écoutaient. Voilà, ça.
Un morceau comme ça
Un groupe que j'aimais bien, Television. Il hein, y avait les Stranglers. Il y avait Iggy Pop. Je suis allé le voir en concert. Donc je m'en souviens très bien. Torse nu, les mains dans le pantalon sur les couilles. Et c'était quelque chose, hein. Et le public aussi, c'était quelque chose. C'était violent.
Est-ce qu'on écoute une chanson de, par exemple, l'album The Idiot, qui doit à peu près correspondre à ça?
Ouais, ou de Raw Power, un des deux. Ouais.
Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.
Cheetah with a hat full of napalm. I'm a runaway son of the nuclear A-bomb. I am a world's forgotten boy, the one who searches and destroys. Well, they gotta help me, please. Technology ain't got time to make no apology. So radiation in the dead of night, love in the middle of a firefight. One of them is taking a break. Searching to destroy. And honey, I'm the world's forgotten boy, the one who's searching only to destroy. In the dead of night, love in the middle of a firefight. Well, I got a strike in a plan. Somebody gotta save my soul. Baby, better take my mind. And I am the world's forgotten boy, the one who's searching, searching to destroy. Let's go, Johnny Boy.
Search and Destroy, 1972, titre d'ouverture du troisième et dernier album d'Iggy et les Stooges, dont l'influence sur le punk sera déterminante.
Putain, où sont mes lunettes? J'ai encore perdu mes lunettes? Est-ce que quelqu'un pourrait lire pour moi?
Je suis toujours en compagnie de l'écrivain et journaliste Philippe Lançon. Vous écrivez dans Charlie Hebdo depuis 2004. Parmi la soixantaine de chroniques de l'homme d'avant, la plupart, les meilleures selon moi, ont été écrites entre 2005 et 2007. C'est plus de la moitié du livre. Et rien que celle de l'année 2005 compte pour un quart de l'ouvrage. Alors, en constatant ça, je me suis dit quelle année faste, mais une note de bas de page précise que vous étiez en dépression à l'époque. Et j'ai repensé à cette phrase de Bret Easton Ellis, « La vie de l'écrivain encourage l'idée que la défaite et le malheur sont bons pour l'art. »
Oui, alors, c'est une formule qu'il a, Bret Easton Ellis, mais elle n'est pas... Oui, elle... Effectivement, 2005, c'est le moment où la dépression monte. Et il se trouve que c'est véritablement un moment, 2005-2006, où j'ai été, je crois, j'ai expérimenté une très très forte autant empathie à tout ce qui m'entourait et aux gens et aux choses et aux événements. Et donc je pense que c'est pour ça qu'à ce moment-là, les chroniques ont une tonalité, les textes ont une tonalité un peu particulière, presque parfois même un tout petit peu visionnaire. Alors évidemment, j'en avais pas du tout conscience, mais c'était vraiment une période, par exemple, où j'étais capable, en passant dans la rue, de voir un SDF, d'aller lui parler, et le type se mettait à me raconter sa vie. Et moi, je me mettais à pleurer. Et en fait, il me parlait très, très naturellement. Ça m'est arrivé qu'à ce moment-là, parce que tout était absolument naturel. Parce que finalement, j'étais... l'état dépressif me ramenait au niveau de tous ceux que j'écoutais. Et en même temps, c'était... Le paradoxe, c'est que, comme tout dépressif à ce moment-là, j'étais totalement enfermé en moi-même, bien sûr. Donc il y avait ce double mouvement. Et effectivement, il n'est pas forcément néfaste pour écrire, ça c'est certain. Et en tout cas, le moment où j'écrivais était un grand moment de soulagement.
Ces années-là, vous concoctez parfois vos chroniques avec un ingrédient qui disparaîtra par la suite, des rebondissements, ou plutôt pour utiliser un terme contemporain que l'on applique souvent aux séries télé, un twist final. Vous présentez une situation comme vraie, assez sidérante, parce que le contrat passé entre le journal et son lecteur est... en général, de dire que tout y est vrai. Et à la fin, vous dites que c'est en partie faux pour nous inviter à questionner nos certitudes. Il y a une chronique sur un faux lecteur mythomane, bien beauf et misogyne de plateforme de Houellebecq, pour faire passer votre sentiment sur le livre. Il y a une chronique sur un faux écrivain qui, dans un train, corrigerait à voix haute un manuscrit qui sont en fait des passages du Marquis de Sade, pour réfléchir sur les limites et les formes que peuvent prendre pornographie et grossièreté. Il y en a une autre assez forte qui démarre par une série de clichés sur des gamins de banlieue qui rouillent près des halles. La première lecture, j'étais surpris, je me suis dit, mais Lançon, mais qu'est-ce qu'il raconte là-dedans? Et puis, au bout d'un moment, à la fin du texte, vous délivrez votre véritable but, questionner nos représentations, les stéréotypes, le chaudron à caricature. Ces rebondissements-là, c'est pour tenir le lecteur éveillé?
C'est surtout pour le... Oui, et puis, encore une fois, comme je vous disais, je crois vraiment être du côté de mes lecteurs, c'est-à-dire, je suis moi-même... sujet à des préjugés, à des opinions qui se manifestent à propos de choses, d'événements sur lesquels je n'ai aucune compétence. Et donc, quand on n'a aucune compétence, aucune science sur un sujet, on est malheureusement livré à ces préjugés et à cette espèce de fond d'opinion mal cuit, là. Donc, voilà. Et donc, moi, j'ai essayé de raconter des histoires qui soient quand même vraiment des histoires intéressantes à lire, vous voyez, qui, voilà, à partir de choses qu'effectivement j'avais vues, où je commençais par laisser aller, à mettre en scène des opinions ou des préjugés que j'aurais pu avoir ou que j'avais, et puis, petit à petit, ça se retourne, vous voyez. Et c'est aussi une manière de signaler aux gens qu'il faut toujours se méfier de ses propres... mauvais sentiments, bien sûr, mais bon aussi sentiments, vous voyez. C'est-à-dire, la morale, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué, vous voyez. Il faut toujours... ce qu'on voit n'est pas forcément ce qu'on croit voir, etc. Donc, j'essayais de faire ça. Celle qui résume, à mon avis, le mieux ça, c'est... parce que là, c'est purement une nouvelle. C'est celle de l'homme qui lui plateforme, qui s'appelle « Le dîner de Tsunami ». Et donc, on ne va pas dire au lecteur de quoi il s'agit, mais effectivement, il y a un vrai rebondissement. Et figurez-vous que l'autre jour, je suis allé voir le spectacle de Lucchini, de Fabrice Lucchini, où il, sur les portraits, il fait ça à Marigny. Et donc, j'y étais parce qu'il m'avait invité, il lit le portrait de ma chirurgienne dans le Lambeau. Mais en fait, à la fin, il m'a fait un cadeau, et c'est cette chronique-là qu'il a lue, ce texte. Et maintenant, il l'a intégré au spectacle. Et c'est intéressant parce que je pense qu'elle est effectivement, il ne le savait pas, mais elle est au... C'est un peu le centre, c'est un peu le cœur de ce livre. C'est-à-dire cette manière dont... Là, en l'occurrence, on attend de quelqu'un qui dit avoir été témoin du tsunami, cette personne qui était inintéressante devient tout à coup passionnante pour tous les autres. Parce qu'on veut qu'il...
Témoigne de l'horreur.
Bah, c'est l'homme qui a vu l'ours.
Ouais.
Et donc, alors là, évidemment, au moment où j'ai écrit ça, j'imaginais pas qu'un jour, je serais moi-même l'homme qui a vu l'ours, et même d'une certaine façon, l'ours. Vous voyez ? Mais voilà, et puis il se passe des choses qui font qu'évidemment, la situation va totalement se modifier. Et je peux vous garantir que quand Lucchini il le lit intégralement, quand la chute arrive, dans la salle, il y a un moment à la fois de flottement et de rire très fort. Parce que c'est ce qu'on appelle un vrai coup de théâtre, pour le coup.
Un vrai coup de théâtre, ce serait de réentendre, là, maintenant, un extrait du Lambeau de mon invité Philippe Lançon. Un extrait que j'avais lu en novembre 2018, dans cette émission, que j'avais lu au dessinateur Luz, au moment où ce dernier publiait son album de bande dessinée Indélébile. Récit de ses 23 ans de formation graphique, politique, morale, rigolarde à Charlie Hebdo.
Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.
Peut-être que je lirai le bouquin de Lançon un jour, avez-vous déclaré en interview. C'est trop dur pour l'instant.
Enfin, c'est pas que c'est trop dur, mais c'est que oui, c'est forcément dur. C'est forcément difficile. Et puis c'est pour ça que peut-être que j'accumule justement sur le Lambeau, la chute, les nouvelles de Dostoïevski, le Vernon Subutex, et qu'à chaque fois qu'il y en a, il y a une pile qui descend, il y a en dessous, il y a le Lambeau, et je rajoute encore quelque chose d'autre. Mais il y a un truc qui me fait dire qu'il faut que je le lise aussi. C'est tout bêtement, Philippe a lu le mien. Et je crois qu'une des raisons pour lesquelles j'arrive pas à me résoudre pour l'instant à lire le Lambeau, c'est que je sais qu'il parle de quelque chose dont j'ai été épargné. J'ai vu des corps, mais j'ai pas vu les visages. J'ai vu du sang, mais j'ai pas vu de la chair. Lui raconte ça aussi. Et parce que ça fait partie. Parce que pour parler de sa propre chair, il faut qu'il parle de la chair des autres. Et je comprends. Pour l'instant, j'ai toujours été épargné par les images. Je pense très souvent à Mustapha Ourad, qui était le correcteur, que j'ai vu à terre, qui semblait dormir. Et je garde quelque chose d'un peu simple comme ça. Et voilà, peut-être qu'il faut voir l'horreur de plus près. En même temps, quand j'aurai bien approfondi Dostoïevski, je pense que je pourrais me coltiner aussi l'écriture de Philippe, parce que Philippe écrit très très bien.
Ouais, c'est magnifique. D'ailleurs, est-ce que je peux vous lire un passage du livre, si ça vous met mal à l'aise aussi?
Non, bien sûr.
Si vous n'y tenez pas, je m'abstiens.
Non, bien sûr.
C'est un moment où Philippe Lançon, depuis l'hôpital et pour la première fois depuis l'attentat, s'adresse à Charlie et à Libération, les deux journaux pour lesquels il écrit. Il leur écrit un article pour expliquer ce qu'il ressent, son état d'esprit. L'article a été publié dans les deux journaux et Lançon note peu après. Je parlais aux morts bien plus qu'aux vivants, puisqu'en ces jours-là, je me sentais proche des premiers, et même un peu plus que proche l'un d'eux. J'ai donc écrit et publié un article adressé en priorité à des lecteurs qui ne pourraient jamais le lire. Leur absence m'attirait, elle me pénétrait. Ils étaient entrés dans un puits où une partie de moi-même, par solidarité, par compassion ou simplement par douleur, aurait voulu les suivre et se sentait prête à le faire.
Si bien que je ne saurais dire aujourd'hui encore si j'ai écrit cet article, cette lettre, cette confession pour les rejoindre ou pour m'éloigner d'eux ou les deux. Je me suis adressé à eux, un par un, puis tous ensemble, comme s'ils étaient vivants ou comme si moi je ne l'étais plus. Je leur parlais de ce que nous avions vécu, je leur demandais ce qu'ils vivaient, je leur expliquais où je me trouvais. Je n'avais pas de chagrin. J'étais le chagrin. Insensiblement, passant d'une rêverie profonde à un moment de double clarté, j'ai commencé à les voir à distance, tels qu'ils étaient, tout à fait morts, et simultanément tels qu'ils avaient été, bien vivants. En les regardant d'un peu plus loin, de haut, détachés de l'anémone, j'ai séché le chagrin. J'ai commencé à leur murmurer une sorte de prière que ma bouche à une lèvre et mon absence de canule fenêtrée m'interdisaient de prononcer. Je ne savais pas où je pourrais l'envoyer, je n'y pensais pas. L'important était de la dire. Elle s'adressait d'abord à celui dont la mort m'avait ouvert les yeux, Bernard, mais souriant et vivant, puis à celui dont je me sentais le plus proche, Volinsky. Ces fragments qui font écho à plusieurs pages de votre album Indélébile, Luz, dans lequel apparaît tout à la fin Philippe Lançon.
On n'aura jamais... On n'aura pas vécu la même chose. Moi, je n'ai pas été arraché dans mon... dans ma chair, comme Philippe, comme Laurent, comme Simon, comme Fabrice. Des fois, j'ai peur de re-rentrer en contact avec eux pour savoir, voilà, pour d'être d'un coup, je me rends compte à quel point c'est important de lire le livre de Lançon parce que peut-être il montre quelque chose de réel. Et dans tout ce qu'on a vécu de loin, de près ou de loin, etc., il y a quelque chose, il y a une irréalité. Et là, il parle de cette irréalité réelle que lui, il a vécue parce qu'il était au plus près. Et c'est peut-être important de le lire parce que ça permet d'éviter tous les fantasmes de celui qui aurait dû y être ou qui aurait pu y être. Bullshit, on n'y était pas. Bullshit, on ne peut pas savoir. Mais on peut s'approcher de quelque chose. On peut s'approcher de quelqu'un qui sait. Et peut-être que lire le Lambeau, c'est s'approcher de quelqu'un qui sait.
C'est sur ce témoignage, chères auditrices, chers auditeurs, que s'achève la première partie de ma conversation avec Philippe Lançon. La semaine prochaine, Philippe Lançon évoquera ce que c'est, pour lui, un journal vivant, ainsi que les menaces qui continuent de peser sur la rédaction de Charlie Hebdo, ou encore ses romans dont il rêve, mais qu'il n'écrira pas. L'émission d'aujourd'hui a été réalisée par Sullivan Clabot, avec l'aide à l'enregistrement de Tristan Guérin. Rendez-vous chaque midi sur Nova pour de nouvelles aventures littéraires. Bon après-midi, et n'oubliez pas, comme dit Jodorowsky, d'une peau de tigre accrochée au mur, nous ferons des tigres.
Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.